Peu avant le procès de Nuremberg, un jeune psychiatre américain, le capitaine Douglas Kelly, reçoit la mission de prendre en charge la santé mentale d'Hermann Göring et d'autres criminels nazis afin de s'assurer que ces derniers puissent comparaître sains d'esprit et responsables de leurs actes. C'est la fascinante histoire de ces échanges et de leur fatale conclusion, le suicide 12 ans plus tard du médecin dans les mêmes conditions que celles de son prisonnier la veille de son exécution, que le journaliste américain Jacques L. Hay restitue au cours d'une minutieuse enquête traduite de l'anglais par Daniel Roche et parue aux éditions Les Arènes. La dimension la plus intéressante de l'ouvrage réside en effet dans cette relation transférentielle, progressive et à haut risque, entre l'ambitieux médecin et son illustre patient. Si Kelly tente de manipuler Göring en misant sur son amour-propre afin d'accélérer le sevrage de son addiction aux psychotropes, le Reichsmarschall joue de son côté sur l'orgueil professionnel du psychiatre en se soumettant à ses directives. Une relation chaleureuse, doublée d'une fascination mutuelle, selon l'auteur, se développe entre les deux interlocuteurs aux environnements familiaux et aux anamnèses individuelles pour le moins chargées. Dans cette confrontation entre deux mégalomanes dotés l'un comme l'autre d'une solide assurance, l'objet d'étude Göring en vient littéralement à captiver Kelly, qui outrepasse sa mission de suivi médical et se lance dans une exploration aveugle du personnage, et ce, afin de décrypter et de diagnostiquer un profil psychiatrique nazi type. Fruit de ses recherches, son ouvrage « 22 cellules à Nuremberg », publié en 1947, rejoindra les thèses exprimées par Hannah Arendt couvrant pour le New Yorker le procès d'Eichmann à Jérusalem de 1961 et celle de l'expérience de l'universitaire Stanley Milgram en 1963 sur la personnalité ordinaire des exécutants nazis. Dans ce mélange des genres situés à la croisée de la psychiatrie et de la criminologie, un épisode particulier témoigne du verrouillage transférentiel entre Kelly et Göring, voire d'une introjection psychique partielle du second par le premier. Lors du procès, Göring demande à Kelly d'adopter sa petite-fille Ada et de l'emmener vivre aux États-Unis dans l'éventualité de sa condamnation à mort et peut-être dans celle de son épouse par le tribunal. Jacques Kelly écrit « À son retour, quelques mois plus tard, Kelly fera part de cette proposition à son épouse Yuki, dont on ignore la réaction à la perspective d'adopter et d'élever la fille d'un dignitaire nazi. L'auteur minimise considérablement la portée de cette révélation et n'explicite pas la manière, pourtant essentielle du point de vue de l'inconscient, dont le psychiatre américain a pu présenter cette requête à son épouse. L'a-t-il évoquée en termes ironiques au simple détour d'une conversation? L'a-t-il au contraire présentée formellement à Yuki? Cela mériterait sans aucun doute des recherches supplémentaires. L'historien ne s'embarrasse pas de cette affaire. Il décrit à la place les dernières années de cet homme nourri d'un indiscutable instinct de contrôle. Il met à jour la désintrication pulsionnelle de ce chercheur de vérité jusqu'au tréfonds des replis les plus obscurs de l'âme humaine, au point de faire endosser à son jeune fils le rôle de sujet expérimental du père en le soumettant compulsivement à toutes sortes de tests cognitifs. Ce faisant, Jacques L. Hay ne rencontre aucune difficulté pour nous suggérer la chute inexorable de Kelly dans une jouissance psychotique, les conditions hystéroïdes, théâtrales et tragiques de son suicide qui le conduisent à absorber le contenu d'une capsule de cyanure rappellent l'ultime geste de défi héroïque du Reichsmarschall. Dans l'obsession mutuelle des deux hommes de vaincre la mort et d'échapper à l'oubli, l'authenticité attractive et crue du pire leur a tenu lieu de destin commun.